Bienvenue sur CNews, nouvelle édition de 90 minutes info à suivre. Ce sera juste après un premier appel des titres en compagnie de Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
La ville de Nottingham endeuillée. Trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville dans un incident tragique impliquant une camionnette. Un homme de 31 ans a été arrêté. Rishi Sunak, Premier ministre, a aussitôt réagi sur Twitter, qualifiant ces événements de choquants. Mes pensées accompagnent les blessés et les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie, a-t-il ajouté. Donald Trump, à nouveau devant la justice, l'ancien président américain doit comparaître ce soir devant un tribunal fédéral de Miami dans le dossier des archives dissimulées sur sa propriété de Mar-a-Lago. Le milliardaire de 76 ans, à nouveau candidat à la Maison-Blanche, se verra notifier les charges qui pèsent contre lui. Et puis ces chiffres inquiétants publiés par Santé publique France pour terminer. 22% des Français dépassent les plafonds de consommation recommandés en matière d'alcool, ce qui représente plus d'un adulte sur cinq. La France reste donc l'un des pays au monde les plus adeptes de l'alcool avec 42,8 millions de consommateurs.
Et dans cette édition, nous parlerons de cette écriture inclusive qui s'invite de plus en plus au sein de l'université et même dans certaines institutions. La révolution sociétale envisagée par les mouvements féministes va-t-elle voir s'entrechoquer deux visions de la langue française? Il est temps, en tout cas, de s'interroger sur ses conséquences.
Jusqu'ici, c'était certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. Maintenant, on se rend compte que même la ministre de l'Enseignement supérieur valide cette écriture inclusive. C'est vraiment une catastrophe pour l'avenir, parce que c'est un sujet pour l'avenir, parce qu'on parle de la survie de la langue française, on parle de l'éducation des jeunes.
Donald Trump, à nouveau devant la justice, à Miami cette fois, sous le coup de 37 inculpations pour avoir emporté des dossiers et documents nucléaires, entre autres après son départ de la Maison-Blanche. Parmi ses chefs figurent les mentions de rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale ou encore entrave à la justice et faux témoignages. Avec quelles conséquences politiques? Nous irons aux États-Unis avec notre correspondante. Et puis, plus de souveraineté industrielle. C'est le nouveau credo d'Emmanuel Macron qui annonce aujourd'hui la relocalisation de la production de 25 médicaments pour rendre le pays autosuffisant en cas de pénurie.
Au fond, les trois batailles qui pour moi se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Pourquoi pendant des années on a laissé de la production dans votre secteur se délocaliser ? Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectifs, qui parfois étaient moins rentables, aller se faire ailleurs.
Et voilà, nous sommes en place avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, Laura Lebar. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Bonjour Jean Messia.
Bonjour.
Président, fondateur... toute casquette confondue de Vivre Français. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jean. Et merci à Jean-Claude Dacier également d'être parmi nous cet après-midi. On va commencer avec un dossier qu'on a beaucoup, beaucoup suivi ces dernières semaines. Et cette question surtout, avons-nous tiré les enseignements de la mort de l'INSEE? Un autre cas de harcèlement, celui de Maël, lui aussi, qui avait été très médiatisé. L'enfant est finalement retourné à l'école, mais les parents sont frustrés par le manque de mesures qui ont été prises, ne serait-ce que pour l'exemple. Je vous propose de regarder ce reportage, la mise en image, est signée Maxime Lavandier.
C'est une véritable désillusion pour Maël et sa famille. L'harceleur du jeune garçon ne sera pas poursuivi.
On est complètement désabusé là, de cette décision, parce que leur harcèlement est reconnu par l'Éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu.
Pendant 3 ans, Maël, 10 ans, est victime de harcèlement par l'un de ses camarades de classe, au point d'être déscolarisé par ses parents, qui décident de porter plainte. Le 16 mai dernier, il témoignait sur notre antenne et nous racontait le long calvaire qu'a vécu leur fils.
Je me dis, mais comment on va arriver à stopper ça, quoi ?
Après 3 mois d'école à la maison, le rectorat de Dijon propose une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
Une proposition acceptée en attendant les résultats de l'enquête, non poursuivie du fait de son âge.
Toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite car moralement, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes.
Le harceleur peut désormais, si ses parents le souhaitent, revenir dans l'établissement.
Alors Laura Lebar, je vais évidemment commencer avec vous. Ce père qui parle d'un vide juridique et qui dit « moralement, on n'est pas à même de juger si un enfant de cet âge-là, en gros, a déjà des valeurs de bien, de mal, de souffrance ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est souhaitable aussi de ne pas condamner, poursuivre à un si jeune âge?
Alors, non, on a déjà la notion de bien et de mal très très jeune, à partir de 6-7 ans, donc on va commencer par là. Ensuite, effectivement, le lobe frontal se connecte à 10 ans et à partir de là, on empêche la pulsion. Mais le harcèlement, ce n'est pas une pulsion, c'est un phénomène de groupe. Maintenant, ce que je dis aux parents, je comprends la frustration, mais c'est comme toutes les causes. Il faut quand même combattre. On est au début du harcèlement scolaire, comme le combat des femmes, comme plein de combats dans l'histoire contre l'esclavage. Il faut quand même continuer parce que c'est le début du combat. Et puis à force, dans quelques années, on espère que ça ira mieux.
Oui. Jean Messia, au fond, le nœud de ce problème, dans cette histoire spécifique, ce serait le retour éventuel du harceleur. Ça voudrait dire qu'on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé dans l'affaire Lindsay. C'est ça que craignent les parents. Parce qu'au fond, les parents de cet enfant qui posait problème ont accepté qu'il soit sorti de l'établissement. Ça n'est pas forcément, ça n'a pas forcément vocation à durer comme situation. Et c'est ça qui serait vraiment dommageable s'il devait revenir.
Il y a 1 million d'enfants harcelés en France. Il y a eu combien de sanctions?
Et il n'y en a pas eu, à ma connaissance, pour l'instant. Hein.
Il n'y a pas de sanctions.
Il y a des mises en examen.
Et même dans les cas très graves qui ont conduit à la mort, on peut quand même relever un problème d'administration scolaire. C'est-à-dire que l'école, les personnels de l'école qui sont au courant en amont, parce qu'il ne s'agit pas de laisser les choses se régler en aval et de s'interroger en aval si les choses ont été bien faites ou pas. Déjà, quand on a des signaux, des préalertes, en amont, dans l'administration, on a quand même des capteurs, il y a des CPE, il y a des enseignants, il y a des directeurs d'établissement. En fait, les cas de harcèlement sont connus en amont. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas la chose une fois qu'elle arrive. Et donc le problème, c'est qu'il faut juguler le phénomène avant que ça devienne un phénomène de meute et que ça parte hors de contrôle pour aboutir à des tragédies. Donc si dès le départ, on tue dans l'œuf le mécanisme du harcèlement, en identifiant dès le départ cette mécanique mortifère, eh bien effectivement, il y a peut-être moyen d'éviter en aval un certain nombre de conséquences. À la fois, on ne serait pas en train de parler, si vous voulez, d'éloignement des harceleurs, etc. Maintenant, une fois que ça arrive, il est évident que les harceleurs doivent être identifiés, sanctionnés scolairement, parce que ça se passe à l'intérieur de l'école, et donc l'école doit prévoir des sanctions pour ce genre de comportement. Et même si ça se passe en dehors, bah, c'est la continuité, si vous voulez, de ce qui se passe à l'école par d'autres moyens, et des sanctions, évidemment, pénales s'il y a lieu. Mais oui, encore une fois, ce qui est interrogé ici, c'est quelles sanctions dures pour les harceleurs. Moi, j'en vois aucune pour l'instant, ou en tout cas, les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui arrive.
Alors, ce qui est intéressant, Jean-Claude, c'est dans ce que nous dit Jean Messia, il parle d'anticipation. Le problème, c'est que dans beaucoup de témoignages qu'on a recueillis, y compris donc, au sein de ce corps enseignant, beaucoup disaient, peut-être par complaisance ou peut-être par peur, ça fait partie, ces phénomènes de bande, ça fait partie d'une sorte de jungle qui s'instaure, les rapports de force entre élèves,
non, mais
ça a toujours
faux.
Existé. Et donc,
c'est
à ce
faux.
Titre... On n'est pas là pour faire la police.
Ça ne date
absolument pas
d'hier ou d'aujourd'hui. Néanmoins, le monde change. Et il a beaucoup changé. Les réseaux sociaux participent pour une large part. Les chaînes d'information en permanente aussi. Et quelques autres. Ça ne veut pas donc dire qu'il faut accepter parce que c'est ancien, parce que ça a toujours existé. On laisse les choses aller. Les événements récents ont démontré que l'éducation nationale était, une fois encore, je suis navré d'avoir à dire ça, mais un peu prise de court. On a nommé un référent harcèlement. J'espère qu'il y connaît quelque chose et qu'il a une petite expérience dans le domaine. On a improvisé, semble-t-il, le ministre, M. Ndiaye, a improvisé une heure d'information dans les classes, dans la semaine qui vient, disons dans les 15 jours qui viennent, pour essayer de faire prendre conscience aux élèves et aux professeurs que la situation ne peut pas continuer comme ça. J'ai peur que tout ça soit un peu court, d'autant que là, ça me navre, mais le ministre a complètement raté son coup quand il a reçu la famille, c'est ça, hein.
Oui, c'est surtout qu'à la sortie, les parents n'étaient pas du tout.
Et les parents ont dit à la famille, on n'a pas compris, il n'a pas eu le sentiment d'épouser notre cause. Bref, le courant n'est pas passé, il a fallu que ce soit la femme du président qui intervienne.
Qui colmate,
bon, indépendamment du fait, on verra bien ce qui arrivera, M. Ndiaye, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est que je suis navré d'avoir à dire ça, mais l'éducation nationale a encore un peu raté son coup. Moi, je suis... Attention aux harceleurs. C'est des gamins aussi. Il faut leur parler, peut-être pas les condamner à vie parce qu'ils ont harcelé. Néanmoins,
Pardon.
Laura Le Barfoy, vous avez mon information. Hein.
Moi, je ne suis pas expert du tout de ces questions. Ouais. J'en parle avec beaucoup de modestie. Néanmoins, prenons le problème à bras-le-corps pour une fois, parce que c'est vrai qu'entre les réseaux sociaux, nous et quelques autres, c'est devenu un enfer pour les enfants qui sont harcelés. Et que ça ne peut pas
merci
continuer
Jean-Claude,
comme ça.
On j'ai va laisser Laura Le
Pardon,
Barre,
j'ai été un peu long.
Y compris voilà, sur la psyché
et de... Et vous parlez d'un cas qui est arrivé très proche de moi. Donc, je n'ai pas cité, mais qui est dans ma famille. Donc, dans un grand collège parisien, très connu. Et on a remis cet enfant avec son harceleur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les enfants de la nouvelle classe se sont mis avec cet enfant, d'accord, contre le harceleur. Et d'ailleurs, on témoignait hier sur mes réseaux sociaux, cet enfant qui s'est mis, qui a intégré à son groupe. Et donc, il y a quand même des choses qui changent dans les bien classes sûr, grâce aux messages qu'on fait passer. Il ne faut pas d'accord penser que tous les enfants... Au contraire, il y a quand même quelque chose au niveau des ados qui se ligue contre ça. Mais par contre, effectivement, Nelly, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que nos enfants sont en sécurité? Non, effectivement, on remet les harceleurs dans la classe des harcelés, et ça, ce n'est pas normal.
Mais ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que vous avez des cas où on parle de prévention, alors que la prévention, franchement, n'a plus lieu d'être. Quand on voit des gens qui se tirent dessus à la Kalachnikov, on dit qu'il faut des médiateurs, des gens en amont qui agissent pour éviter ça. Non, c'est dans les écoles qu'il faut faire de la prévention par rapport au harcèlement, parce qu'à mon avis, la prévention, là, pour le coup, est beaucoup plus efficace que dans certains quartiers gangrénés par des mafias, etc. Ouais. La prévention, là, est l'élément cardinal de la chose.
Vous aurez toujours des profs et des membres du corps enseignant pour dire que ce n'est pas leur métier. On le sait déjà. Hein, ils diront que ça ne fait pas partie
de la charge. Il n'y a pas des profs.
C'est vrai. Sophie Audugé est avec nous, déléguée générale de SOS Éducation. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. On va revenir, on a parlé du cas de Maël, dont le harceleur potentiellement pourrait revenir dans l'enceinte de l'établissement. Mais moi, j'aimerais recueillir votre sentiment sur ces fameuses cette fameuse heure de sensibilisation qui est prévue dans les collèges et les lycées. Est-ce que ça vous paraît largement insuffisant, fait un petit peu à la va-vite? Moi, je vais vous dire, ça donne un peu l'impression qu'on veut mettre la poussière sous le tapis quand même.
Oui, bonjour à tous. Bien sûr, évidemment. Et puis le côté, il y a un drame, je m'agite, je propose une solution immédiate. Évidemment, ça n'a aucun sens. Bien sûr que le problème du harcèlement est un problème systémique. Dans l'école aujourd'hui, hein, l'école est dans une situation extrêmement grave d'abandon de l'autorité, pas de vague, qui fait que de toute manière, et très malheureusement et très tristement, les parents qui ont été obligés d'alerter hein, quand même les médias, il faut le dire, que le seul endroit où ils ont été entendus, ce sont les médias et pas n'importe quel média. Je crois que c'est très important de le dire. Ces parents-là avaient fait le nécessaire. Ils avaient alerté que leur enfant était harcelé. Et ce n'était pas depuis une semaine, et ce n'était pas depuis un mois. C'était depuis des mois et des mois, pour certains depuis plusieurs années. Et ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été entendus par à l'école. Ils n'ont pas été entendus par la direction. Ils n'ont pas été entendus non plus par le rectorat. Voilà. Alors évidemment, le cas dramatique de l'INSEE, qui n'a pas trouvé d'autre issue pour appeler à l'aide de tous, au plus haut niveau de l'État, ça a été de mettre fin à ces jours. Je crois franchement que le fait que Papa Ndiaye n'ait que comme solution une heure pour en parler dans les établissements, enfin moi j'avoue que ça me sidère, j'ai pas d'autres mots, ça me sidère.
Sophie Audugé, est-ce que ce ministre vous paraît être complètement en deçà de la tâche? Est-ce que vous, il vous semble que si la volonté politique au plus haut, hein, comme vous dites, de l'État, mais déjà, à commencer par l'éducation nationale, était là, les profs se plieraient de bonne grâce à faire des choses un peu drastiques, un peu radicales pour changer les choses dans leurs établissements, à condition qu'on leur en donne les moyens. Ou c'est vraiment une question d'individualisme exacerbé qui fait que chacun s'en lave les mains?
Ben, je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, Nelly, on a un phénomène aujourd'hui systémique qui nous dépasse. Moi, je ne veux pas croire, si vous voulez, on connaît tous les profs et leur engagement auprès des élèves et auprès de leur matière. Je dirais à un moment, quand ça fait des années qu'on leur demande de faire tout et n'importe quoi, d'être à la fois assistante sociale, d'être à la fois quelque part des bureaucrates, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, et qu'en plus on les met en cause dès qu'ils font un pas de travers, à un moment, si vous voulez, ils ont une réaction de protection, ils ont en plus une direction, on le sait très bien, qui n'a pas très envie qu'on sache qu'il y a des problèmes de harcèlement dans son établissement, parce qu'on sait aujourd'hui que ça a un impact sur l'évolution des chefs d'établissement, ce qui est quand même invraisemblable. Donc si vous voulez, c'est pas une mesurette qu'il faut faire, c'est reprendre complètement la place de l'école. Moi, j'ai déjà dit sur votre plateau, aujourd'hui, vu le désastre de l'école, il y a deux priorités: instruire, protéger. Le reste, ça dégage, ça n'a pas sa place aujourd'hui à l'école. Alors c'est dramatique, moi j'en suis désolée, j'adorerais qu'on ait tous la possibilité de faire des écoles Montessori pour tous les enfants et qu'il n'y ait pas que les enfants des ministres qui se retrouvent dans des écoles très pointues. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est obligé de revenir aux basiques. Et les basiques, c'est instruire, protéger. Et à partir du moment où un enfant est en situation de harcèlement ou de difficulté à l'école, il doit être pris en charge. Il doit être pris en charge par des psychologues, il doit être pris en charge par des médecins scolaires.
Vous restez avec nous. On va parler d'un thème connexe, en tout cas qui vous concerne aussi au premier chef, puisque vous abordez toutes ces questions d'éducation. On revient régulièrement à la progression de l'écriture inclusive. Vous avez peut-être vu encore ce matin cette une du Figaro. Le Figaro qui consacre non seulement sa une, mais également un grand dossier assez éclairant, je dois dire. C'est une graphie qui est vieille de 10 ans, qui a fait son chemin dans les milieux académiques et institutionnels sous l'impulsion, on le rappelle, de mouvements féministes. Regardons à quel point, pour commencer, avec Émilie Gougache.
Une écriture qui pourrait devenir la norme dans les universités. À la Sorbonne, où elle serait utilisée à 30% d'après le Figaro, les étudiants y sont régulièrement confrontés.
Il y a une volonté de l'utiliser aussi pour les documents un peu administratifs ou l'affichage dans les couloirs.
Devoir écrire, non. Par contre, j'ai déjà eu des textes, par exemple des exercices, avec de l'écriture inclusive. Ouais.
S'il ne s'oppose pas à son utilisation, certains concèdent qu'elle peut poser quelques difficultés et manquer parfois de pertinence.
Visuellement, quand on relit, c'est pas évident. Et après, même pour l'écrire, je pense que c'est une habitude à prendre.
C'est peut-être un peu compliqué pour savoir exactement où est-ce qu'il faut l'utiliser, où est-ce que ça peut être justement pertinent de l'utiliser.
Se ramener à reconvertir des écrits qui ont déjà été mis en place avec, par exemple, une touche d'art différente ou une empreinte historique différente, ça peut être remis en question.
Une écriture qui se généralise de plus en plus au détriment de la langue française, d'après Rémi Peyrade, délégué national de l'UNI.
Jusqu'ici, c'était certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. C'est vraiment une catastrophe pour l'avenir, parce que c'est un sujet pour l'avenir, parce que on parle de la survie de la langue française, on parle de l'éducation des jeunes.
En 2021, une circulaire a banni l'utilisation de l'écriture inclusive dans les écoles, les collèges et les lycées, mais elle ne fait l'objet d'aucune réglementation dans les universités.
Jean Messia, ne pas genrer, ne pas assigner. Je vous rappelle quand même que 22% des 18-30 ans, c'est moi qui le dis, c'est l'IFOP, aujourd'hui, se disent non-binaires. Est-ce qu'on va vers une révolution lente mais sûre? Est-ce que ça vous inquiète?
Ça m'inquiète et je trouve que notre monde devient fou. Ni plus ni moins. L'écriture inclusive, excusez-moi, mais c'est pour moi une écriture exclusive et in fine excluante. Parce que imaginez que vous soyez un étudiant étranger et que vous ayez appris la langue française comme on l'apprend depuis toujours. Et que vous débarquez en France avec cette écriture que personne ne comprend. Et d'ailleurs, elle n'est qu'écriture puisqu'on ne peut pas la parler.
C'est hyper déstabilisant.
Les point E, point E, point E, point S, vous prononcez ça comment? Enfin, c'est une écriture, mais c'est pas une langue parlée du coup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais poussons le délire. Moi, par exemple, je me sens racisé. L'écriture, elle n'est pas racisée, là. Je veux une écriture racisée. Pourquoi est-ce qu'on écrit en noir? Je ne suis pas noir. Je veux que la feuille soit noire et que je puisse écrire en blanc. Enfin, excusez-moi, voyez...
On ouvre la porte à tous les dires.
J'en ai marre de ces minorités qui plastiquent
Merci.
Au sens de dynamiter les codes majoritaires pour faire une dictature de leur propre particularisme. C'est agaçant.
L'édito de Étienne de Montetti dans le Figaro parle de cacographie. Le terme m'a fait sourire. Oui. C'est pour faire un jeu de mots avec cacophonie. C'est votre avis également?
C'est mon avis.
On y comprend rien.
Risque d'aller au-delà. Moi, ça me fait rire. J'hésite entre le sourire et les pleurs, si vous voulez. Bon, mais je penche pour le sourire parce que cette écriture inclusive, telle qu'elle se présente, avec aujourd'hui l'arrivée de nouveaux mots, vous y avez compris quelque chose? Honnêtement.
Non, moi, j'arrive pas à le lire.
Mais c'est absolument impossible. Donc, ça fait partie, si vous voulez, je crois qu'une partie, pas tous, et heureusement, partie du corps enseignant, notamment dans les universités, a besoin d'avoir quelque chose pour quoi militer. On les a connus communistes, trotskistes, guéveristes. Ils ont tout enfourché. Là, ils en ont une nouvelle, qui est qu'en gros, femmes et hommes, c'est la même chose, et que l'écriture inclusive, l'écriture de demain, doit répondre aux besoins de ce genre qui n'en est plus un. Donc, laissons passer. Je sais ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez inquiétant. Alors, on est heureusement en France.
Merci.
Et j'espère ne pas être complètement dans l'erreur en me disant que c'est une pitrerie lamentable.
Laura Le Bar, avant de retrouver Sophie Audugé. Il y a une fracture générationnelle aujourd'hui quand même. C'est voué à durer pour vous?
Moi, je trouve que c'est nier une réalité. Quand on est à la naissance, on est garçon ou fille à un genre. Donc ni un genre, déjà, c'est un peu particulier. Après, on est qui on est, point. Oui. Et l'écriture inclusive, alors moi, j'ai une culture américaine, mais je dirais, moi, je serais plus pour la parenthèse plutôt que sur le point final.
Voilà. Mmh. D'accord. Bah, là, c'était vraiment rapide pour le coup. Sophie Audugé est avec nous. Elle a entendu vos avis aux uns et aux autres. On va pas se parler vrai. Est-ce que c'est quelque chose, une lame de fond qui est vouée à durer, à s'installer, à prendre le pas peut-être sur la langue telle qu'on l'a écrite jusqu'à présent? Est-ce que pour vous, il y a d'autres solutions à proposer? Par exemple, on dit souvent, voilà, c'est peut-être pas normal que le masculin l'emporte systématiquement sur le féminin, dans les cas notamment de pluriel. Est-ce qu'il y a des choses à revoir là-dessus qui pourraient permettre de parer, de contourner la difficulté?
Alors, tout d'abord, bon, nous, c'est un dossier qu'on a pris en charge en 2020-2021. On a fait une pétition qui a conduit Jean-Michel Blanquer à interdire l'écriture inclusive dans l'enseignement, puisqu'on envoyait déjà des premières formes en primaire quand on apprenait aux enfants à lire et à écrire. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. On a fait une note de synthèse de 80 pages avec des linguistes où on a pu démontrer, comme vous le disiez d'ailleurs, que c'est une langue qui... Enfin, c'est pas une langue d'ailleurs, c'est une graphie, un système non formel, qui exclut. Il exclut avant tout, évidemment, les personnes qui ne sont pas très, très, très à l'aise avec la langue, puisqu'il est quasiment impossible de tenir un discours ou d'écrire plusieurs pages dans cette forme de graphie qui contraint à la fois l'écriture, mais qui contraint également le sens. Alors là, pour apprendre à des enfants à lire ou écrire, c'est juste les empêcher. Donc l'école, elle n'est pas là pour empêcher, surtout ne pas nuire, on va dire. Puis si on peut en plus leur apprendre à lire et à écrire, c'est encore mieux. Je voudrais rappeler que c'est un sujet profond, puisque Jean Dutour le disait très bien, pervertir une langue, c'est pervertir l'esprit. C'est renier l'âme de la nation dans ce cas-là de plus intime et de plus précieux. Il ne faut pas sous-estimer l'enjeu, là. Donc la langue française a cela de formidable, qu'elle est la plus précise au monde. On en avait déjà parlé sur votre plateau, Nelly, vous avez eu la gentillesse de m'inviter lors d'un sujet qui portait sur la prise, on va dire, massive du franglais. La langue française est la plus précise et la plus pointue. Il apparaît normal qu'au sein de nos élèves, qui vont devenir des adultes et donc des citoyens engagés, qui sont capables de penser, il leur soit permis de préciser de manière la plus pointue possible le sens de leurs idées, de manière à se faire comprendre et à développer une pensée la plus élaborée possible. La langue française permet cela. La réduire à un objet sexiste est une manipulation politique. C'est une évidence. Et comme le rappelait Simone Veil à plusieurs reprises, évidemment que la féminisation de la langue n'a pas d'objet par rapport à la langue. La langue n'a pas de parti politique, elle n'est ni de droite ni de gauche, elle n'est ni masculin ni féminin. La langue, elle est, et elle dit ce que nous sommes, et elle nous permet de nous exprimer dans une forme d'universalisme important.
Merci beaucoup Sophie Audugé. On est un tout petit peu pris par le temps, mais on a bien compris le propos, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. On vous réinvitera sur le plateau, à cette occasion. Merci à tous les trois, tous les quatre même, et on se retrouve dans un instant pour aller voir ce qui s'est passé dans l'hémicycle autour de cette attaque au couteau à Annecy. Beaucoup de réactions, à tout à l'heure. De retour et le débat reprend juste après le JT signé Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gabriel Fortin, celui que l'on surnomme le tueur de DRH, est actuellement entendu devant les assises de la Drôme. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. Noémie Schulz, bonjour. Vous êtes en direct de la cour d'assises de Valence où lors de l'audience, Gabriel Fortin vient d'avoir un échange plutôt tendu avec sa mère. Noémie, racontez-nous.
Oui, en fait, c'est sa mère, c'est la mère de Gabriel Fortin qui est interrogée depuis le début de l'après-midi. Et il y a eu cet échange de quelques secondes entre une femme de 78 ans qui semble perdue, déboussolée à la barre, et ce fils qu'elle n'avait jamais revu depuis les faits il y a 2 ans et demi. Elle commence d'ailleurs sa déposition sans avoir remarqué que Gabriel Fortin est dans la même salle qu'elle, à quelques mètres seulement. Quand elle le comprend, elle fond en larmes et s'adresse à lui. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça n'allait pas? J'aurais pu t'aider, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais explique-leur, ils ont besoin de savoir pour faire leur deuil. » Dans le box, l'accusé reste impassible. Quelques minutes plus tard, un avocat de partie civile lui demande de recommencer. « Vous aviez une relation fusionnelle avec lui. Dites-lui de soulager sa conscience. » Francine Fortin tente une nouvelle fois de faire parler son fils. « Tu n'y es pour rien », dit-il à sa mère. Puis, pour la deuxième fois de la journée, il lit un texte qu'il avait écrit dans lequel il explique que les personnes responsables de la situation sont des gens qu'il avait alertés, des procureurs, des ministres de la justice, des défenseurs des droits. Voilà, l'histoire, elle est finie, finie. Il se rassoit. Telle est la vérité que Gabriel Fortin est capable de dénoncer aujourd'hui. Peut-être évoluera-t-il au cours de ce procès qui doit durer 3 semaines, mais il semble à l'heure actuelle enfermé et tout à fait incapable d'apporter une explication rationnelle à ses crimes.
Merci beaucoup Noémie Schulz. Les images sont d'Olivier Madinier pour CNews. Emmanuel Macron est en Ardèche aujourd'hui. Le président de la République a visité un laboratoire pour parler de souveraineté pharmaceutique et tenter de sortir la France de sa dépendance en matière de médicaments avec l'étranger, en particulier avec la Chine. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
Au fond, les trois batailles qui pour moi se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Et au fond, elles se rejoignent, et on a eu là l'illustration parfaite, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit. Pourquoi pendant des années, on a laissé de la production dans votre secteur se délocaliser? Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectifs, qui parfois étaient moins rentables, aller se faire ailleurs.
Début du bac professionnel aujourd'hui, plus de 180 000 candidats planchent en ce moment même sur les épreuves d'histoire, géographie et enseignement moral et civique. Ce matin, c'était le français. Écoutez la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, qui s'est rendue tout à l'heure dans un lycée parisien.
Ce baccalauréat, il ouvre des perspectives. J'interrogeais tout à l'heure un certain nombre de jeunes. Ils veulent poursuivre des études. Environ 40% des élèves de terminale de lycée professionnel vont poursuivre des études. Et puis, il ouvre aussi un niveau de diplôme pour aller s'insérer dans l'emploi, pour ceux qui veulent s'insérer dans l'emploi. Donc, c'est important pour ces jeunes de démontrer qu'ils ont appris des choses, appris aussi un métier en lycée professionnel par la voie professionnelle.
Et puis Kylian Mbappé dément un départ précipité pour le Real dès cet été. L'attaquant star du PSG s'est exprimé sur son compte Twitter et a répondu à un article du Parisien. Kylian Mbappé qui a annoncé hier qu'il ne souhaitait pas prolonger d'une année supplémentaire son contrat avec le club parisien. Contrat qui doit prendre fin en 2024. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr dans 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup, cher Michael. Et on parlera évidemment de la nouvelle affaire. Kylian Mbappé restera-t-il, ne restera-t-il pas? J'aimerais qu'on fasse un détour par l'hémicycle. Il y a quelques minutes, on est toujours dans la séance de questions au gouvernement. Ce gouvernement, l'exécutif, qui a été interpellé sur tout le débat autour du droit d'asile, qui a soulevé l'affaire de l'attaque au couteau d'Annecy, qui nous a tous pris aux tripes, émus aux larmes. Et évidemment, ça devient forcément une question éminemment politique pour la suite. Faut-il prendre les choses en main? Faut-il changer l'octroi de droit d'asile et les conditions pour pouvoir l'obtenir? Écoutez cette question émanant du député Yoann Gillet pour le Rassemblement national et la réponse.
Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. Ils sont 80% à demander de la fermeté en la matière. Les Français subissent une immigration dérégulée, massive et anarchique qui a de lourdes conséquences. Voici 30 ans que les Français sont privés de leur droit d'être consultés sur le sujet. Les Français n'en peuvent plus de cette immigration massive qui change le visage de notre pays et est vecteur d'insécurité. Les Français ne veulent plus la financer. Ils en ont assez de voir des demandeurs d'asile ou même des étrangers sous OQTF remplir les pages des journaux, non pas pour des choses positives, mais pour des meurtres et des agressions quotidiennes. Pourquoi donc avez-vous toujours refusé de donner la parole au peuple sur ce sujet? Pourquoi, monsieur le ministre? Vous semblez patiner sur ce sujet majeur, un sujet qui, s'il était pris comme le taureau par les cornes, ferait économiser des dizaines de milliards par an. Cela devrait par ailleurs intéresser le ministre des Comptes publics et votre gouvernement à la rue financièrement qui, rappelons-le, détient le record de dette avec 3 000 milliards d'euros. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, monsieur le ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir? Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, monsieur le ministre, Nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers, réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Vous pourriez tourner le dos à tous ceux qui se succèdent depuis des décennies et se contentent d'assister à l'ensauvagement de notre pays sans rien faire, en détournant le regard. Alors, monsieur le ministre, quand allez-vous agir et nous présenter quelque chose de solide pour protéger les Français?
La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy, pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Madame Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
Un mot juste sur la forme, tiens, Laura Lebar. On ne répond pas tout de suite à la question, on prend le temps de la formuler. Ça, c'est une technique de communication, de toute façon.
Ça, c'est une technique de manipulation. Maintenant, est-ce que je vais dire, tout droit va avec des devoirs. Voilà, donc dans l'immigration, et peu importe, pour n'importe quel citoyen, il y a aussi des devoirs. Donc, ce n'est pas uniquement lié à ça. Effectivement, mettre des devoirs et des obligations, ça va avec les droits, de façon générale. Et puis, répondre à une question, il devrait y répondre parce que ce crime à Annecy est absolument terrible. Et on ne reprend pas ça pour ne pas répondre. Moi, ça me choque.
Jean Messia, bon, après, l'argument de la fin, qui brandit à la fin, est-ce qu'il fait mouche ou pas? Factuellement, ils ne sont pas en capacité de gouverner aujourd'hui, le RN. Hein,
bah, écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que les Français ont voté. D'une certaine façon, pour toute la politique migratoire depuis 40 ans. Enfin, je veux dire, les politiques migratoires qui s'appliquent depuis 40 ans, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont appliquées par des gouvernements dont on sait que c'est l'ADN, que pour lesquels, pour un certain nombre, l'immigration n'est pas un problème, mais un projet. Donc, à un certain moment, si vous voulez, effectivement, les Français doivent se réveiller, doivent aller voter pour des partis qui portent l'espérance d'une action qu'ils appellent de leur vœu. Ou alors, c'est plus...
Tous les sondages, peut-être plus...
voilà, maintenant, si vous voulez, Gérald Darmanin, il botte aussi un peu en touche. C'est-à-dire que quand on lui dit qu'effectivement, le drame d'Annecy est indirectement et même directement lié à une passoire migratoire savamment organisée juridiquement et institutionnellement depuis des années, c'est pas faux. Et quand Gérald Darmanin se présente en héros, d'une politique anti-migratoire, ou en tout cas de limitation de l'immigration avec son projet de loi, etc., bah, il est au ministère de l'Intérieur. Il peut agir. Or, non seulement il n'a aucune action, et puis quand on l'interpelle, il ne répond pas sur les actions qu'il envisage d'entreprendre pour limiter le risque qui aboutit à ces drames. Donc, disons que sur la fin, il a raison, mais en même temps, comme il est aux manettes, il ne nous dit pas exactement ce qu'il va faire pour circonscrire le risque.
Autre séquence qui suit immédiatement, et là, je vous sonderai, bien sûr, cher Jean-Claude, c'est Antoine Armand, qui, lui, est député Renaissance de Haute-Savoie. On l'a beaucoup entendu après l'attaque au couteau, évidemment, à Annecy, et qui interpellait, lui aussi, le gouvernement sur ce qu'il comptait faire.
Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, jeudi, un peu avant 10h, sur le jardin du Paquier à Annecy, un homme est entré dans une aire de jeu et a poignardé des enfants, jusque dans leurs poussettes. Depuis, nos pensées sont avec Peter, 22 mois. avec Ennio et Alba, 2 ans, avec Eti, 3 ans, ainsi qu'avec Manuel, 72 ans, et Youssouf, 78 ans. Nous pensons à eux. Tous sont en vie. Tous sont en vie grâce au prodigieux rempart d'humanité qui s'est immédiatement dressé contre la barbarie. Ce rempart, il a le visage d'Henri, le visage des passants et des agents d'entretien qui se sont interposés. Il a le visage des policiers d'Annecy, des militaires, des pompiers, du SAMU, de la sécurité civile. Il a le visage des soignants d'Annecy, de Grenoble et de Genève. Et aujourd'hui, devant la représentation nationale, je leur dis, nous leur disons merci. Dès jeudi, Madame la Première Ministre, vous vous êtes rendue avec le ministre de l'Intérieur. Puis, le lendemain, le président de la République est venu à Annecy exprimer la reconnaissance de toute la nation. Dimanche, Annéciennes, Annéciens, nous nous sommes rassemblés, fraternellement, pour partager cette gratitude qui est plus forte, qui sera toujours plus forte que les mensonges et les parades des récupérateurs sordides et des opportunistes de la haine. Mais cette gratitude ne suffira pas face aux questions qui nous hantent. Nous aurons besoin de réponses en matière de mécanismes européens d'asile, de sécurité, de proximité, de psychiatrie. Pour cela, nous avons besoin que la justice fasse son travail. Madame la Première Ministre, pouvez-nous donc nous communiquer les derniers éléments de l'enquête? Je vous remercie.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première Ministre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Antoine Armand. Nous avons tous été frappés de stupeur face à l'attaque sauvage dont ont été victimes des tout-petits enfants jeudi dernier à Annecy. Et nous étions ensemble, monsieur le député, en effet, quelques heures après cette attaque avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mes pensées vont en premier lieu aux familles de ces petits-enfants, à ces petits-enfants également, aux autres victimes adultes de cette terrible attaque. Et je voudrais à mon tour rendre hommage, remercier les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, qui est intervenue Donc ces forces de l'ordre qui ont pu intervenir quelques minutes après le début de cette attaque et qui ont pu neutraliser cet agresseur. Et je voudrais également rendre hommage aux forces de secours qui ont été en première ligne face à ce drame absolu de tout petits enfants blessés et qui, avec les soignants, ont su prendre en charge ces petits enfants et aujourd'hui, heureusement, leur vie n'est plus en danger. Donc je pense que vraiment l'heure est à l'émotion. Naturellement, l'enquête doit permettre de faire toute la lumière sur le parcours de cet agresseur, toute la lumière sur ses motivations. Mais ne mélangeons pas tout, ne récupérons pas des drames épouvantables comme ceux que nous avons vécus et dans la sérénité, apportons des réponses à nos concitoyens que nous devons plus que jamais protéger. Je vous remercie.
Mais Jean-Claude, c'est toujours pareil. Une question qui n'est pas une question et une réponse qui n'en est pas une en fait. On fait mine de poser une question sur l'enquête. Évidemment, ça émane de Renaissance, donc ça ne va pas aller à l'encontre de la position de l'exécutif. Mais la Première ministre ne répond pas à la question sur l'enquête. C'est non, juste une tribune que... offerte pour qu'elle reparle d'hommage, de compassion.
On est passé là, à Annecy quand même à quelques millimètres d'une tragédie qui aurait été pour ce pays absolument insupportable. La bonne nouvelle et la grande nouvelle, c'est que depuis 48 heures, on est à peu près rassuré sur le sort de ces enfants. Imaginez ce qui serait passé si ça n'était pas le cas. Néanmoins, écoutez ce qui se dit là à l'Assemblée nationale. Bon, qui est dans son rôle, mais considérant que l'heure est à l'émotion et qu'on ne parle pas des problèmes d'immigration parce qu'au fond, ce n'est pas le sujet, tout ça est insupportable. Je pense au contraire que, en dépit et heureusement de l'issue, je dirais presque favorable, de la tragédie à Annecy, on est confronté au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au problème de l'immigration. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est confronté juste en même temps à un problème que l'Europe n'arrive pas à régler. Quand vous avez des députés, des ministres qui disent « c'est un sujet européen, c'est en Europe qu'on trouvera la solution », c'est inexact. Les pays européens ne s'entendent pas sur cette question. La seule voie, même si ça doit déclencher vis-à-vis de l'Europe une immense déception, incapable de régler sérieusement ce problème, la politique d'immigration qu'on sera obligé de traiter à un moment ou à un autre, dans le sens du durcissement à l'évidence, doit être une politique nationale. En Europe, les pays ne sont pas d'accord. On n'en sortira jamais. Ou on prend les affaires en main, ou je ne sais pas ce qui se passera. Un aux européennes et un peu plus tard à la présidentielle.
D'un point de vue analytique, ça vous avez pas, parce que moi, je suis assez choquée par un truc que j'ai entendu. Alors, déjà, merci aux policiers. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est un civil qui est intervenu. Ça, c'est un. Deux, moi, ce que je vois là, quand je vois là, d'un point de vue psychologique, on ne voit que des personnes qui se réapproprient, d'accord, des choses pour obtenir un peu plus de pouvoir. Et ça, ça me pose un réel problème en tant que citoyen. Voilà, moi qui suis citoyenne, j'aimerais entendre des personnes qui répondent aux questions au lieu de s'approprier un crime aussi horrible pour obtenir des voix. Et ça, c'est scandaleux.
Non, mais surtout, l'émotion, c'était bien. Ça valait jeudi, vendredi. On est mardi, il faut commencer à parler du reste.
Ça, c'est la marque de fabrique de nos gouvernements de manière générale et de ce gouvernement-là de manière particulière. C'est-à-dire que c'est jamais le moment de s'interroger sur l'enchaînement causal qui a abouti à ce drame. Pourquoi ? Parce que la simple interrogation vaut récupération. Absolument. Et donc la récupération, c'est le mot valise qui n'est en fait qu'un tir de barrage empêchant les Français de s'interroger sur les malheurs qui les frappent au moment où ils sont le plus lucides, c'est-à-dire au moment où ces malheurs arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, qu'est-ce qu'on dit en fait ? On dit bisous. On s'interroge effectivement en aval et on s'émeut de ce qui s'est passé, mais encore une fois.
On ne peut pas avoir à parler de l'essentiel.
Exactement. Et l'essentiel, c'est qu'effectivement, nous avons une politique migratoire qui est une politique passoire qui entraîne en aval ce genre de catastrophe.
Et ce n'est pas fini. Il y a encore une séquence, toujours émanant d'une députée Renaissance cette fois, toujours à l'adresse du gouvernement sur cette attaque de Nancy. Nancy, pardon.
Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, nous sommes tous encore choqués par le drame qui s'est déroulé à Annecy il y a quelques jours, drame qui a bouleversé la France et le monde. Toutes nos pensées cet après-midi se tournent vers les victimes et leurs proches. Ce drame a eu lieu. Pour autant, je voudrais saluer ici la formidable chaîne de solidarité, de coopération dans la gestion de ce drame et de ses conséquences qui ont pu être contenues. Les premiers qui sont intervenus sont les promeneurs, les lycéens et les acteurs du tourisme qui étaient sur place et qui ont agi de façon courageuse, soit en appelant les secours, en faisant des traductions en langues étrangères, en faisant un cordon sanitaire pour éviter que les plus petits ne soient pas exposés à ces scènes si terrible. Dans un temps record, les professionnels sont intervenus, forces de police, pompiers, puis les soignants et toute la chaîne de secours. Bien sûr, ils sont formés pour intervenir et le formidable dispositif mis en place a permis de limiter les victimes et les blessures. Pour autant, on n'est jamais préparé à une telle horreur. Et leur émotion ressentie juste après témoigne de la fragilité de notre humanité. Le temps sera long pour refermer ces plaies et il nous faudra prendre soin d'eux. Monsieur le ministre, ce que je voudrais dire ici, cet après-midi, c'est que toutes les décisions prises l'ont fait et ont permis de sauver ces enfants, ces adultes, et de ne faire aucune nouvelle victime. Monsieur le ministre, pour ces héros du quotidien ou professionnels avertis, je souhaite que la nation leur exprime sa reconnaissance et gratitude. Comment, selon vous, pouvons-nous les honorer de la manière la plus juste, la plus républicaine, telle qu'ils le méritent ?
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Rioton, vous avez raison, c'est le service public et les femmes et les hommes qui le composent, quelle que soit leur mission, qui ont permis de sauver ces enfants et ces victimes et d'éviter d'en faire davantage. Je voudrais avoir une pensée évidemment pour Monsieur le Préfet et pour ses équipes qui en quelques instants non seulement a commandé les opérations de secours et de sécurité mais aussi est intervenu pour évidemment organiser la mise en sécurité. Vous parliez des lycéens qui étaient à proximité du drame, mais aussi des écoles, puisque lorsqu'il arrive une abomination comme celle d'Annecy, la première question que se pose un préfet, le ministère de l'Intérieur, c'est évidemment, y a-t-il d'autres personnes dans d'autres territoires de la ville qui peuvent passer à l'acte? Et malheureusement, la panique, bien légitime, évidemment, se fait démonstration. Et il faut que les services de l'État rassurent. Et M. le préfet a su rassurer tout en menant ses opérations de secours et de sécurité. Il faut dire aussi que l'organisation du ministère de l'Intérieur, s'il doit toujours être améliorée, bien évidemment, a montré, et c'en est la responsabilité des femmes et des hommes qui composent ce ministère, bien sûr, son efficacité. Je rappelle qu'en moins de 3 minutes, un équipage de police est arrivé pour interpeller cette personne, puis une équipe de motos qui ont pu, avant qu'il puisse continuer sa marche terrible, interpeller cette personne. Je voudrais avoir une pensée particulière pour ces policiers qui ont risqué leur vie, dont l'un d'entre eux, vous le savez, a utilisé son arme de service et qui l'ont fait dans des conditions, à la connaissance du ministère de l'Intérieur, d'un grand professionnalisme. Ils étaient d'ailleurs tous les deux formateurs de tir et tous les deux majeurs de la police nationale. J'ai proposé au président de la République que des décorations soient imaginées pour les prochaines promotions pour l'ensemble des personnes qui ont contribué à sauver évidemment ces personnes. Et quand l'enquête sera terminée, nous tirons évidemment un bilan du service des étrangers jusqu'aux opérations de secours pour améliorer une nouvelle fois et pour montrer en exemple ce qui s'est passé ainsi, qui, malgré l'innommable, a permis de sauver des vies.
Tout ça pour ça.
Alors, moi, je suis horrifiée par ce que j'entends, d'accord? Alors, la police a mis 3 minutes, mais si on n'avait pas eu un civil, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Ensuite, se servir plusieurs jours après. On a quand même, quand j'entends dire, le travail du gouvernement est de rassurer. Là, il n'y a rien de rassurant dans l'actu qu'on a au quotidien. D'accord? On a eu l'INSEE, on a eu l'OLAF. On n'a plus besoin de citer toutes les horreurs qu'on a tous les jours. Donc non, l'heure, elle est à l'action. Elle est aux solutions, elle est aux réponses. Elle est certainement pas à ce pathos mélodramatique où finalement, on évite les sujets importants. Parce que là, effectivement, le peuple, il est pas rassuré.
Mais ça va même plus loin, on s'auto-congratule, en fait.
C'est ça, de faire son travail. La police est arrivée, bah oui, bah pour une fois, tant mieux et c'est normal. Bah, mais on va surtout remercier le civil qui est intervenu.
Non, mais il y a une forme d'autocongratulation sur la fin. Un propos un peu limitant quand même.
La police est encore une fois fait preuve de professionnalisme. Je veux dire, ça, on ne peut qu'applaudir. Et puis, les policiers, ils sont suffisamment mis au banc par un certain nombre de médias qu'il faut de temps en temps leur rendre hommage à leur travail qui est réel pour protéger la société, ce que je ne manque pas de faire.
Mais est-ce que la réponse est à la hauteur?
Par contre, je ne vois pas comment, si vous voulez, un pouvoir politique qui est précisément est un peu à la ramasse en ce qui concerne les questions migratoires et les questions de sécurité, puisqu'on a cette explosion de la sauvagerie dans notre pays. J'entendais l'autre jour le témoignage de M. Bauer, le criminologue, qui disait qu'on avait atteint un taux d'homicidité qui est record sur les 50 dernières années, c'est-à-dire à la fois les homicides et les tentatives d'homicide. Quand on a ces chiffres-là et ces statistiques-là, si vous voulez, on est prié de se faire discret. Alors moi, je veux bien qu'on rende hommage, qu'on passe notre temps à faire de l'émotionnel, qu'on fasse notre temps à faire des marches blanches, des nounours, des bisous, etc. et des fleurs, c'est très bien, le temps de l'émotion est nécessaire, mais quand on est au pouvoir, quand on est au gouvernement, c'est pour gouverner, enfin en principe, donc c'est-à-dire c'est pour traiter le réel et faire en sorte que les drames qui peuvent frapper les Français aujourd'hui ne frappent pas les Français demain, et pour cela, ça s'appelle la politique, il est temps qu'ils en fassent.
Allez, on va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra pour parler de ce qui se passe avec Donald Trump. Jean-Claude Dacier, vous avez suivi ce dossier. Il est devant une
avec
cour.
Donald Trump, oui.
Ouais. Est-ce qu'il risque gros? On verra. En tout cas, sa ligne de défense paraît très claire sur ces fameux documents qu'il aurait emportés de la Maison Blanche après son départ. À tout à l'heure. 16h30 et il est donc temps de retrouver Somaïa Labidi pour le rappel de l'actu. Rebonjour Somaïa.
Le tueur de DRH Gabriel Fortin dans le box des accusés à Valence, mutique depuis son arrestation en 2021 pour le meurtre de 2 anciens DRH qu'il avait licenciés et une cadre de Pôle emploi. Le suspect s'est finalement plié aux questions du juge. Jusqu'à la dernière minute, les familles, proches et employeurs des victimes ont craint de voir le box rester vide. Le verdict est attendu le 30 juin prochain. Journée de grève pour les assistants qui accompagnent les élèves handicapés. Ils réclament la création d'un statut de la fonction publique pour sortir de la précarité et une augmentation de leur rémunération. Plus de 130 000 d'entre eux accompagnent actuellement 430 000 enfants selon les chiffres du ministère publiés à la rentrée de septembre 2022. Et puis le vaccin anti-chikungunya de Valneva enregistre des résultats prometteurs. Toutefois, son efficacité réelle contre la maladie doit encore être avérée selon une étude publiée mardi dans la revue de Lancet. Pour rappel, le chikungunya qui cause de la fièvre et de violentes douleurs articulaires est une maladie provoquée par un virus lui-même transmis par le moustique tigre.
C'est peut-être l'affaire la plus compromettante pour ses ambitions futures. Je parle bien sûr de Donald Trump qui se retrouve aujourd'hui devant un tribunal à Miami pour sa gestion négligente de secret d'État après sa présidence. Il est donc convoqué devant un juge accusé d'avoir emporté des documents confidentiels après son départ où figuraient notamment des informations sur les armes nucléaires. Bonjour Elisabeth Guedel, vous êtes sur place. J'ai grand plaisir à vous retrouver à l'antenne, chère Elisabeth. Alors, précision, c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. C'est beaucoup plus inquiétant pour lui que l'affaire, vous savez, du paiement à l'actrice X il y a quelques semaines. Là, on comprend que c'est du sérieux.
Ah oui, là, c'est la première fois, effectivement, qu'un ancien président comparé devant la justice de son pays. C'est un tribunal fédéral, donc il représente la justice des États-Unis. C'est inédit et donc les charges sont extrêmement lourdes. Un 37 chefs d'inculpation pour des documents qu'il a effectivement emportés il y a 2 ans quand il a quitté la Maison-Blanche, qui contiennent des secrets liés, en tout cas, à la sécurité nationale des États-Unis. Et ça, on ne rigole pas, évidemment, sur le sujet, pour avoir menti au FBI, qui lui réclamait ces documents qui devaient rester aux archives nationales, et donc il risque de la prison ferme, hein, Donald Trump, il risque de finir sa vie en prison. Alors évidemment, il y a un grand pas, il faudrait qu'il soit, qu'il y ait un procès et qu'il soit reconnu coupable. Donald Trump qui va tout faire évidemment pour retarder au maximum ce procès, il peut continuer à faire campagne pendant ce temps-là, il vise en tout cas la Maison Blanche, revenir à la Maison Blanche, pour éventuellement d'ailleurs s'accorder un pardon présidentiel et éviter la prison, ce qui est un peu dans un système américain tout à fait inédit. La Constitution n'avait pas pensé à cette possibilité. En tout cas, effectivement, c'est le moment le plus difficile pour Donald Trump, même s'il y a d'autres enquêtes, notamment pour l'attaque du Capitole, vous vous en souvenez, en janvier 2021, où là aussi, il risque d'être très inquiété de façon au niveau fédéral, puisque c'est pour sédition, pour avoir encouragé ses partisans à envahir le Capitole.
Merci beaucoup, chère Elisabeth. On va continuer d'en débattre. Vous pouvez rester avec nous, d'ailleurs. On va peut-être vous solliciter dans le cadre de notre discussion. Laura Lebar, vous intéressez beaucoup à l'actualité américaine. Vous avez vécu aux États-Unis. Il a déjà une ligne de défense là-dessus, hein, Donald Trump.
Alors, j'ai parlé à un ami qui est journaliste sur une chaîne américaine et qui m'a envoyé l'actu. Donc, lui, sa ligne de défense, c'est non coupable. D'accord ? Les documents seraient déclassifiés. Maintenant, l'analyste va parler aussi, parce qu'on vient d'assister à quelque chose en France. C'est pareil là-bas, c'est toujours des espèces de combats, de lutte de pouvoir. Moi, j'ai le sentiment que finalement, il n'y a plus de vrais dirigeants. On cherche à s'approprier le pouvoir plus qu'à, quelque part, sauver le peuple. Et ça me pose un profond problème.
Mmh. Jean Messia, est-ce que c'est politique, enfin, est-ce que derrière, effectivement, il y a la volonté aussi d'entraver ses ambitions pour la prochaine présidentielle? Il n'en fait pas mystère, bien sûr. Hein.
Alors moi, je pense, si vous voulez, que l'État profond américain et le système gaucho-progressiste antinational, qui est le même que celui qui gouverne en France depuis une quarantaine d'années, ne pardonne pas à Donald Trump ni d'avoir gagné l'élection de 2016, ni d'avoir présidé, évidemment, les États-Unis pendant 4 années. Donc effectivement, vous savez, la justice, elle est indépendante formellement et institutionnellement, mais très souvent, elle n'est pas indépendante idéologiquement. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, en France, un syndicat politisé, qui est le syndicat de la magistrature, qui est très à gauche et qui représente entre un tiers et 40% des magistrats, ce n'est pas une justice indépendante. Aux États-Unis, on a exactement le même phénomène, même si les magistrats ne sont pas syndiqués, mais en tout cas, ils ont une coloration politique. Et donc, effectivement, ça ressemble à de l'acharnement. Ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, quand un président américain, il va finir sa vie en prison. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'a-t-il donc fait? Et il a tué quelqu'un. Il a vendu des secrets. Il est coupable de haute trahison. Excusez-moi.
On rigole pas avec les documents.
Si vous voulez,
comme en fait, je sens comme une pointe de nostalgie. Si,
non,
les propos de
juste pour terminer.
On verra bien, genre.
On ne peut qu'être surpris entre le décalage, décalage entre l'ampleur de ce qui lui est reproché et de ce qu'il risque, et effectivement la réalité des choses.
Les États-Unis, il emmène une trentaine de cartons à son domicile. domicile. C'est pas normal. La justice américaine va pas laisser passer ça, sauf s'il y a une procédure de déclassification. Alors, auparavant, ce que je crois pas une seconde. Je sais bien que Trump a encore aujourd'hui un noyau dur de soutien absolu. Pour ça, je suis très prudent dans ma connaissance modérée des États-Unis. Ils sont toujours très surprenants dans leur choix. Néanmoins, franchement, si vous pariez sur le fait que Trump soit encore capable d'être candidat dans quelques mois, là, franchement, ça commence à devenir compliqué.
Biden est une momie de 105 ans, il est toujours au pouvoir, il se représente.
Mais qu'est-ce que ça a à voir avec un gars qui a volé des documents?
Il a volé des documents, il n'a pas été condamné encore.
Merci, on va aller voir la spécialiste de la question. Elisabeth, sur cette notion de déclassification, déjà, un, est-ce qu'il a les moyens de le prouver? Est-ce que c'est une ligne de défense qui peut tenir la route pour lui?
Non, ce n'est pas une ligne de défense. Il n'a pas déclassifié ses documents. Le FBI lui avait réclamé. Là où il risque, il y a des preuves qu'il a menti au FBI. Vous savez, le mensonge est très important. Bill Clinton le sait. Hein. Il a été une procédure d'impeachment parce qu'il avait menti. C'est très sérieux aux États-Unis sur ce sujet, en dehors du fait que c'est des documents effectivement liés à la sécurité nationale du pays. Et vous parlez de la justice qui est peut-être partisane, mais vous savez, la juge devant laquelle Donald Trump va comparaître a été nommée par Donald Trump et elle a un certain pouvoir. Elle peut très bien retarder toute cette procédure, la tenue du procès par exemple. Donc effectivement, il peut y avoir un biais, on le voit avec la Cour suprême également, avec leurs opinions, mais la justice américaine est quand même assez indépendante, et là il y aurait des preuves, des emails où Donald Trump a clairement menti, a clairement voulu retenir des documents liés encore une fois à la sécurité nationale. C'est là où ça risque d'être difficile pour lui comme défense.
Elisabeth Guédel, évidemment, Elisabeth, vous connaissez
le
pays. La notion de parjure, c'est très très grave. Les Américains n'aiment rien de moins qu'un mensonge. C'est cette notion-là qu'on retient, et c'était le cas aussi dans toutes les affaires retentissantes. On peut penser aussi à l'affaire Clinton à l'époque. Mensonge, c'est très grave pour les Américains.
Oui, encore faut-il qu'il soit établi, là. Pour l'instant, le procès commence. On va faire le procès avant le procès. La justice apporte les preuves, Donald Trump apporte les preuves, mais franchement, Donald Trump est un des présidents les plus patriotes que les États-Unis ont connus ces 30 ou 40 dernières années. Je ne vois pas comment il aurait pu nuire au pays qu'il chérit le plus, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est quelque chose que je ne comprends pas.
À des fins de divulgation, mais juste parce qu'il a pris un peu ça par-dessus la jambe, Elisabeth, dernière réaction.
En tout cas, il a clairement cherché à ne pas rendre ses documents. Il a rendu certains cartons, mais on a des preuves qu'il a déplacé ces boîtes dans lesquelles il y avait ces documents confidentiels avec l'aide d'un assistant qui lui doit comparaître également et qu'il a voulu garder. On ne sait pas ce qu'il en a fait. Vous savez, Mar-a-Lago, là où sa résidence, c'est ouvert au public. On ne sait pas s'il les a montrés. Il aurait même montré certains documents, notamment sur la défense par rapport à l'Iran, à des personnes qui ne sont pas du tout habilitées à voir des documents top secret. Donc là, s'il y a les preuves écrites, maintenant il faut le prouver évidemment, c'est un vrai problème pour lui avec la justice américaine.
Madame Guédel, j'ai juste une petite question parce qu'on voit effectivement ces charges extrêmement lourdes que la justice américaine fait peser sur Donald Trump. Mais on s'étonne un petit peu d'une forme de légèreté avec laquelle la justice américaine traite l'affaire Biden, vous savez, avec le fils de Joe Biden, le fils de Joe Biden, ses rapports avec l'Ukraine, la Russie, etc. On a l'impression d'un deux poids deux mesures vu de France entre le traitement qui est réservé à Trump et le traitement qui est réservé à Biden.
Elisabeth, est-ce que ce sont
Biden fils, oui.
Est-ce que c'est Joe Biden? Est-ce que c'est ce que disent les détracteurs?
Il faut oublier que Joe Biden est aussi l'objet d'une enquête.
Qu'on puisse dire, c'est que la justice est moins empressée.
Les médias s'y intéressent.
Si on est d'accord, il y a un trouble.
Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Un dernier mot et après on s'interrompt.
Effectivement.
Merci beaucoup, Elisabeth. On voulait suivre tout ça et on reviendra vers vous, bien sûr, dans les jours qui viennent.
Dernier mot de façon analytique où je vais rejoindre un peu ce qu'il y a des gens. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que s'il n'était pas représenté, les accusations seraient sorties au milieu? Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un président qui se présente, on a plein d'accusations qui viennent. Et c'est très souvent de la gauche envers la droite. Moi, ça me fait un peu sourire. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître le positif comme le négatif. On ne peut pas juger quelqu'un pour ses actes, mais c'est très
Américains,
souvent comme ça.
C'est même France, on n'est pas américain, donc on l'a pas jugé.
Mais même en France, c'est un peu pareil. On sait très bien que les accusations arrivent très souvent quand il y a présentation aux élections.
La justice américaine est souveraine et c'est heureux et on verra ce qu'il en sort. Merci, on s'interrompt à nouveau et on reparle. Alors, on a tout autre sujet, mais qui va vous passionner.
Jean-Claude, vous allez nous éclairer sur les renouvellements de contrats, pas de contrats. On parle de foot, évidemment.
Si je savais.
Mbappé va-t-il partir ?
On fera un petit point. Quel gâchis !
À tout à l'heure. Il a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. L'attaquant star sous contrat jusqu'en 2024 a informé le club qu'il n'activerait pas, c'est un peu subtil, l'année supplémentaire qui était à sa disposition. Kylian Mbappé n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG, c'est ce qu'il a ajouté un petit peu plus tard. Et le club a jusqu'au 31 juillet pour le convaincre de modifier son choix. Regardez ce sujet d'Augustin Donadieu, on en parle ensuite.
Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises ? Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. L'ancien joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige.
Vous allez signer Mbappé ?
Oui, mais pas cette année.
La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions. Mbappé seulement s'il arrive libre. Le Paris Saint-Germain est prévenu.
Réaction en direct de Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG. Bonjour Jimmy, merci d'être avec nous en direct. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a un rapport de force qui s'installe, un jeu de dupes un peu entre le club et le joueur ? Racontez-nous comment ça se passe, ce genre de tractation, pour ceux qui ne connaissent pas bien.
Oui, bonjour. La capacité d'Mbappé de mettre le Paris Saint-Germain au pied du mur par rapport déjà à son image et puis aussi à sa carrière, elle est là et bien là, tout simplement. Il explique que déjà il n'est pas content de ce qui a été fait la saison dernière et que déjà pour rester, voire peut-être pour continuer, parce qu'il y a effectivement pas mal de chances encore qu'il puisse rester, il attend du club autre chose que ses recrues et surtout les noms qui sont apparus ces derniers temps avec Asensio ou d'autres joueurs.
Ça veut dire que là, on va aller vers des négociations un peu âpres. On dit aussi du PSG qu'il est trop tendre avec ses stars et qu'il cède un peu au caprice. Est-ce que là, on va peut-être voir de quel bois le club se chauffe ?
Oui, mais c'est la capacité d'Mbappé de pousser les gens dans leur retranchement, de pousser les, que ce soit sur le terrain et aussi en dehors sur sa carrière, puisqu'il la gère magnifiquement. Il faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a très très peu de joueurs qui arrivent à avoir leur destin en main, et Mbappé c'est le cas. Et donc là, en fait, je pense que c'est tout simplement de demander au club de faire vraiment ce qu'ils lui ont promis, ce qu'ils lui ont dit il y a un an. Il ne faut pas oublier que quand il a signé au Paris Saint-Germain, il y a quelques années, il était normalement le projet du club, et on lui a amené Neymar, après on lui a amené Messi. Donc là, aujourd'hui, il ne veut plus avoir de problèmes ou d'autres sollicitations, d'autres arrivées de joueurs. C'est pour ça que là, il met et il tranche carrément pour la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain et sa carrière tout court.
Ouais, alors, moi j'ai une question. On évolue comme joueur en allant faire ses gammes ailleurs, parce que bon, il ne peut pas rester non plus ad vitam aeternam au PSG. Ça fait partie du processus naturel dans la formation d'un champion hors norme qu'il est d'ailleurs déjà.
Bah ça c'est des joueurs qui ont besoin de passer des paliers. Là aujourd'hui, Mbappé n'a plus besoin de passer de paliers, si ce n'est que de gagner la Ligue des Champions et de devenir le meilleur joueur au monde. Et ça, il pourrait très bien y arriver, et il peut y arriver au Paris Saint-Germain. Sauf que jusqu'à présent, le club n'a pas donné satisfaction au clan Mbappé. Et donc, en faisant ça, parce qu'il faut pas oublier qu'Mbappé aime la France, aime le Paris Saint-Germain, il a dit, c'est pas du vent, même s'il y a de la stratégie derrière. Donc là, en fait, il a envie de voir et surtout d'obtenir ce que doit avoir un grand club pour aller chercher le dernier carré de la Ligue des Champions et puis, qui sait, peut-être gagner la Ligue des Champions.
Mais ça veut dire que peut-être il y croit plus, en tout cas pas avec le PSG, quoi. Pour la Ligue des Champions. Alors, on a un petit problème technique, mais Jean-Claude, vous allez reprendre le relais. Ça veut dire que ça y est, il a compris qu'au fond, peut-être le PSG n'avait pas les moyens d'aller au bout du rêve.
Bon, les moyens, ils les ont.
Oui, mais enfin, bon, en tant que collectif, bah, quoi, ça prend pas.
Ils ont la compétence et la capacité. Ouais. J'en suis évidemment moins sûr, il faut parler prudemment en ces matières. Mais enfin, ils ont voulu bâtir une vitrine mondiale pour faire que le PSG connaisse la gloire et la notoriété. Ils ont eu ni l'un ni l'autre. Pire, ils reculent. L'année qui vient de s'achever a été horrible. Ils n'ont plus d'entraîneur. Ils ont perdu Messi. Bon, fallait-il d'ailleurs l'embaucher ? La question est posée. Neymar, avec un contrat qui va traîner jusqu'en 2027, dans ces conditions-là, je ne suis pas sûr qu'il reste encore longtemps. Bref, il y a tout à refaire.
Eh oui.
Donc, il faut se mettre aussi à la place de Mbappé. Il a sa carrière à faire, il a du génie, c'est le meilleur joueur à l'heure actuelle en exercice probablement dans le monde, mais il a besoin de savoir ce que le PSG est capable de lui offrir. Si on fait l'équipe autour de lui, qu'on le lui dise avec des noms, des gens précis, une volonté de recruter, etc. etc. Sinon, il partira. Et puis tant pis pour le PSG qui s'assoira sur le prix du transfert. Il partira probablement au Real de Madrid où on l'attend avec impatience. Mais honnêtement, c'est le président du PSG qui doit s'interroger et parler. Il fait un travail de salopio. C'est un désastre cette année le PSG.
Jimmy Algerino, une dernière réaction. Est-ce que effectivement le PSG doit faire quelque chose à la main d'Mbappé et lui donner un peu plus de latitude pour la négo, ou est-ce que finalement Mbappé il se dit de manière plus pragmatique, bon bah il y a plus de Real Star au Real Madrid, c'est ouvert. Moi je vais arriver et je vais devenir la star du Real Madrid quoi.
Bah, Nelly, vous avez compris ce qui se passe actuellement, c'est sûr, avec le départ de Benzema du Real de Madrid. Mais encore une fois, Mbappé aime le Paris Saint-Germain, aime la France. Il a fait un effort de rester et de re-signer. Maintenant, la saison qui s'est passée n'a pas été satisfaisante. Et ce qui s'est passé en termes de recrutement, en termes de discours, en termes d'efficacité, ça a été du néant. Donc là, aujourd'hui, Mbappé, lui, il n'a pas de temps à perdre. Le Paris Saint-Germain, peut-être, mais lui, il n'a pas de temps à perdre. Et là, il montre à tout le monde et à son président et aux gens du club qu'il faut avancer et comment il faut avancer. Donc lui, il attend juste des preuves et il attend des actes. Lui, il a demandé aussi au niveau du vestiaire d'avoir des joueurs français qu'il a peut-être aussi avec lui en sélection. Là, pour le moment, je vous dis, il y a 3 ou 4 noms qui paraissent. Il n'y a aucun joueur de la sélection française et aucun joueur avec qui l'aurait demandé. Donc c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il fait cette démarche-là. En envoyant la lettre, puisqu'il n'était pas obligé de le faire, il montre vraiment qu'il n'est pas content et qu'il veut aller pas au bras de fer parce qu'il restera. Mais en tout cas, il attend du Paris Saint-Germain des actes et donc des joueurs qui vont lui permettre de grandir, d'avancer avec le Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Jimmy Algerino d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, ce qui est avéré, c'est que c'est un fin négociateur. Il le prouve en plus d'être un joueur.
Il va y avoir une négociation difficile dans les semaines qui
viennent. Ça va être compliqué, mais on va suivre ce dossier avec beaucoup, beaucoup d'attention parce que voilà, il y a beaucoup de supporters qui sont suspendus à ces décisions-là. Merci, c'est tout le temps qui nous restait. Je rends la main à Laurence Ferrari, le début de Punchline. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir et un nouveau panel d'invités à partir de 15h30. Excellente fin d'après-midi sur l'antenne. We'll be right back.